DW. Info matin.
7h en temps universel, 8h dans nos studios à Bonn, ici en Allemagne. Info matin, c'est 30 minutes d'information sur la radio internationale allemande en compagnie ce matin avec Fréjus Quenon. Bonjour Fréjus.
Bonjour Bob Barry, bonjour à toutes et à tous.
C'est avec vous les titres de la matinale Afrique.
Le dernier jour du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, les participants appellent à un mandat plus robuste des forces militaires contre les groupes djihadistes.
Les attaques de groupes armés à l'origine de plusieurs centaines de milliers de déplacés internes. Au Mali, nous verrons que la MINUSMA et le Haut Commissariat aux réfugiés aident les déplacés internes à retourner chez eux.
Et puis, l'heure est à un nouveau bilan de l'initiative Compact with Africa, lancée il y a 3 ans par l'Allemagne pour promouvoir l'investissement en Afrique.
Ali Farhat est à nos côtés pour la rubrique sportive. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Hier, en marge de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les Comores ont réalisé un exploit face à l'Égypte. En effet, les Comoriens ont tenu en échec les Pharaons 0-0 et prennent ainsi la tête de leur groupe G.
Vous écoutez la DW, il est 7h01 en temps universel. Avant de commencer cette édition, nous ouvrons donc ce journal par votre bulletin d'information avec Fréjus Quenon. Vous êtes prêts, nous aussi.
Les États-Unis décident de ne plus considérer les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant contraires au droit international. Et cela réjouit le Premier ministre israélien à Jérusalem. Benjamin Netanyahou salue la correction d'une erreur historique. Écoutez.
Citoyens d'Israël, c'est un jour historique et un autre grand succès pour notre diplomatie. Après avoir reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, reconnu notre souveraineté sur les plateaux du Golan, l'administration américaine met fin aux mensonges qui qualifient les colonies d'illégales. Je remercie le président Trump et le secrétaire d'État Pompeo.
Peu avant l'annonce de ce revirement, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, déclarait que le fait de considérer ces colonies comme étant illégales n'avait pas fait avancer le processus de paix au Proche-Orient. Israël a annoncé ce matin avoir intercepté 4 roquettes tirées depuis la Syrie voisine, des tirs interceptés par le système de défense anti-aérien israélien. Aucun d'entre eux n'aurait touché de cible en Israël, apprend-on. Dans la capitale syrienne, les médias d'État ont fait mention de leur côté tous ce matin d'explosions entendues près de l'aéroport de Damas, sans plus de détails pour le moment.
La Chine remet en question le pouvoir judiciaire de Hong Kong.
Les autorités de Pékin contestent aux tribunaux de Hong Kong le droit de prononcer des décisions touchant à la constitution de cette zone économique spéciale. D'après des propos du porte-parole du Parlement chinois relayé par les médias d'État, Yan Tiwei indique que seul le Congrès du peuple à Pékin est habilité à prendre des décisions concernant la constitution de Hong Kong.
Pendant ce temps, le mouvement de protestation se poursuit.
Oui, l'université polytechnique est toujours sous contrôle de la police. La chef du gouvernement local, Carrie Lam, confirme qu'environ 600 personnes ont entre-temps quitté le bâtiment. Une centaine d'individus y demeurent encerclés par la police. Une entente après d'âpres discussions au sujet du budget de l'Union européenne pour 2020. Représentants des gouvernements et eurodéputés se sont accordés sur le montant de 168,7 milliards d'euros, dont 153,6 milliards d'euros pour assurer les paiements. Il y a donc une augmentation de 3,4% par rapport à cette année en cours. Ainsi, des moyens supplémentaires seront consacrés à la numérisation, au climat et à la lutte contre le chômage des jeunes. Les eurodéputés ont aussi ouvert la voie à un vote d'investiture la semaine prochaine de la commission dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen.
L'Iran passe de nouveau outre certaines clauses de l'accord sur son programme nucléaire.
D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran s'est entre-temps doté d'un stock de 130 tonnes d'eau lourde, ce qui dépasse le niveau autorisé par l'accord. Les réserves d'eau lourde peuvent servir à la production de plutonium utilisé dans la confection d'armes atomiques. L'Iran réagit ainsi à la rupture unilatérale par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran, où 3 agents de l'ordre ont été tués par des émeutiers près de Téhéran. Au moins 4 blessés par balle durant de nouvelles manifestations en Haïti hier, après une allocution du président Jovenel Moïse qui refuse de démissionner. Des troubles également en Bolivie où les partisans du président évincé Evo Morales sont affrontés la police hier, alors que les habitants de plusieurs villes ont signalé des pénuries de nourriture et d'essence.
On termine ce tour d'horizon de l'actualité internationale par la Libye.
Oui, l'ONU signale la mort de 10 employés d'une usine de fabrication de biscuits lors d'un raid survenu hier dans le sud de la capitale Tripoli. 35 autres personnes sont blessées. Les victimes sont majoritairement des migrants, indique un rapport que l'émissaire spécial de l'ONU en Libye a adressé au Conseil de sécurité. Hassan Salamé dénonce un acte qui pourrait constituer un crime de guerre. La Libye est plongée, vous le savez, depuis le mois d'avril dans une guerre fratricide déclenchée par l'offensive militaire de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.
Vous écoutez la DW, il est 7h05 en temps universel. Voici la suite de ce journal.
DW.
Allez, direction Dakar, là-bas au Sénégal. C'est donc la deuxième et dernière journée du Forum international de la capitale sénégalaise sur la paix et la sécurité en Afrique. Hier, lundi, les participants à cette rencontre ont réfléchi autour, entre autres, de l'urgence de repenser la sécurité collective à travers le renforcement du multilatéralisme.
Oui, il s'agit, Bob, notamment du renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme à l'échelle locale et régionale afin de faciliter la lutte contre les groupes armés. Un compte-rendu signé de notre correspondant à Dakar, Robert Adé.
L'Organisation des Nations Unies et les différentes missions de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique ne déméritent pas, mais elles doivent être réformées, ont reconnu les différents intervenants au 6e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Macky Sall, le président sénégalais.
Il urge vraiment qu'il y ait une réforme sur le système d'opération de maintien de la paix dans les zones où le terrorisme sévit.
Invité d'honneur de ce rendez-vous annuel, le tout nouveau président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cher El Haswani, plaide pour le renforcement des forces armées sous-régionales.
Les forces régionales mobiles, plus légères et connaissant mieux le terrain, doivent être davantage privilégiées comme réponse, plutôt qu'une force lourde et statique avec un mandat souvent limité et coûteux. L'ONU doit ainsi donner un mandat plus robuste et un financement plus pérenne aux forces sous-régionales, telles que la force conjointe du G5 Sahel.
Pour le Premier ministre français Édouard Philippe, l'idéal en termes de stratégie serait de combiner action militaire, diplomatique et aide au développement économique et social.
Les armées conventionnelles, aussi courageuses, aussi nombreuses soient-elles, ne pourront jamais totalement vaincre l'ennemi que nous combattons. Les États ont besoin de stabilité pour se développer.
Face à l'ampleur de l'insécurité au Mali et au Burkina Faso, certains participants doutent encore de l'adhésion de tous les acteurs au multilatéralisme.
La question que je me pose, c'est si c'est pas un peu conceptuel et un peu éloigné des réalités du terrain. J'ai l'impression qu'on a du mal à sortir et à mettre en application les recommandations qui sont faites aux différents forums.
Est-ce que l'Union africaine se retrouve dans cette force du G5 Sahel? Est-ce que la CDAO se retrouve dans cette force du G5 Sahel? Ben, je pense que les États africains doivent essayer de regarder dans la même direction afin de dresser une piste d'appui et d'assistance des forces internationales.
Cette 6e édition du Forum international de Dakar promet de relever, entre autres défis, la fin de l'impasse en Libye et la bonne gouvernance.
Je vous remercie.
Robert Adé, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Et à cette conférence qui en était hier à son premier jour, l'initiative P3S a été présentée. P3S pour Partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel. Il s'agit d'une initiative de l'Allemagne et de la France pour aider les pays du Sahel à réformer leur appareil sécuritaire. À cette conférence consacrée aux enjeux actuels du multilatéralisme, eh bien, il y a des organisations qui participent, comme la Fondation Conrad Adenauer. Florian Karner est le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer à Abidjan et directeur du programme Dialogue sécuritaire qui couvre l'Afrique de l'Ouest.
Le sujet du sommet tombe bien parce qu'entre-temps, à mon avis, tous les acteurs ont bien compris qu'il y a seulement des solutions communes pour stabiliser la zone. Il faut harmoniser tous les projets qui sont menés. Nous sommes là en tant que facilitateur pour donner des plateformes d'échange à long terme pour rassembler des acteurs clés. Et c'est un investissement de l'Allemagne à long terme avec des acteurs clés. Je crois que le dialogue doit être à l'origine d'une telle coopération et nous sommes prêts à accompagner beaucoup d'acteurs.
Et alors que se tiennent les travaux du Forum international consacré à la sécurité près de Dakar, une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes dans l'est du Mali a fait hier lundi 24 morts parmi les soldats maliens, 29 blessés et des dégâts matériels importants.
De sources sécuritaires, 17 terroristes ont été tués, une centaine de suspects appréhendés. Les prisonniers seraient aux mains des forces nigériennes, selon un communiqué de l'armée malienne qui a indiqué avoir reçu le soutien de la force française anti-djihadiste Barkhane dans la contre-offensive contre les djihadistes. Un soldat de Barkhane serait grièvement blessé.
Cette attaque constitue un nouveau coup dur pour l'armée malienne après la mort d'une centaine de soldats dans deux attaques djihadistes en un mois dans les mêmes confins du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le Mali où la MINUSMA et le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, soutiennent le village de Koigouma dans le nord-ouest du pays dont une partie des habitants sont revenus de Mauritanie en mai dernier.
Plusieurs milliers de personnes qui avaient fui sont retournées chez elles. Une aide dans une zone où la collaboration doit se faire avec les groupes armés en raison de l'absence de l'État. Alors comment cela se passe sur place? Comment revenir dans un village qu'on avait fui? Les explications sur place ce matin de Paul Lorgeret.
Koigouma renaît doucement de ses cendres. En mai dernier, plus de 2000 personnes originaires de ce village du nord-ouest du Mali reprenaient la route depuis le camp d'Ombera, en Mauritanie, pour retourner dans leur village natal. Aujourd'hui, les tentes côtoient les maisons en cours de réparation, détruites lors des saisons des pluies successives. Un retour appuyé par le HCR et la MINUSMA. Diallo Mbemba, chef du bureau du HCR à Tombouctou.
Le retour de 2089 rapatriés est un retour massif. C'est pourquoi nous sommes en train de marquer pour que cela soit un signe fort pour ceux-là qui sont dans les camps, pour qu'ils puissent juger, prendre la décision, parce que nous sommes dans la phase de la facilitation du rapatriement.
Pour encourager le reste des habitants de Koigouma restés en Mauritanie à revenir, le HR et la MINUSMA ont construit une nouvelle école, fait don de tentes et de panneaux solaires, ainsi que foré un puits dans le village. Une façon de faire revenir un semblant de représentation étatique dans la zone, tout en s'inscrivant dans la logique des accords de paix signés en 2015. Ahmedou Agabdala, chef de village.
Ces personnes qui sont revenues ont fait le choix de suivre l'accord dans une perspective de réconciliation. Aujourd'hui, nous espérons rester sur nos terres et ce, à jamais. Après l'accord, l'opportunité a été donnée à la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, de créer une base dans le village, dans l'optique d'assurer la sécurité et la libre circulation des personnes dans la région.
Accord de paix, retour, le village de Koigouma est en effet une base du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, d'IHCEA, un groupe politico-armé signataire des accords d'Alger en 2015. Une coopération qui ne choque pas pour autant Ricardo Maya, chef de la MINUSMA à Tombouctou, qui considère le chef de village comme un partenaire fiable.
C'est exactement la mise en œuvre de l'accord de paix. La mise en œuvre de l'accord de paix, ça s'est fait avec les groupes signataires. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans un territoire qui est contrôlé par l'un des groupes signataires.
Avec un retour des réfugiés et de la sécurité dans la zone, l'exemple de Koigouma pourrait bien s'étendre à d'autres villages du Nord et les groupes signataires devenir des partenaires privilégiés d'un retour à l'ordre dans la zone. Paul Lorgeret, de retour de Koigouma pour la Deutsche Welle.
Et puis selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, depuis janvier, plus de 1500 civils ont été tués au Burkina Faso et au Mali.
Écrivez-nous à français@dw.com.
Vous écoutez la radio internationale allemande, il est 8h13 à Berlin, la capitale fédérale allemande. L'heure est nouveau au bilan, 3 ans après donc le lancement de l'initiative Compact with Africa, lancée par les autorités allemandes pour promouvoir l'investissement en Afrique.
Les dirigeants des pays concernés par ce projet initié par la chancelière allemande Angela Merkel, au moment où l'Allemagne assurait la présidence du G20, se réunissent ce mardi pour faire le point avec Carola Sion.
Lancé en grande pompe lors du G20 en 2017, l'objectif de l'initiative Compact with Africa est d'attirer des investisseurs privés dans les États africains qui, à leur tour, s'engagent à initier des réformes économiques. Mais les espoirs sont quelque peu déçus 3 ans après son lancement, selon l'économiste Robert Kappel, auteur d'une étude critique commandée par la Fondation Friedrich Ebert sur le projet.
Les investissements Les investissements dans les pays du compact n'ont pas augmenté. Ce qui a été accompli, c'est d'améliorer les conditions générales d'investissement dans les pays africains. Les pays africains ont rempli leur mission, mais ils sont également un peu déçus par le fait que l'investissement direct ne soit pas plus important.
Les investissements étrangers dans les 12 pays du pacte ont en effet à peine augmenté entre 2017 et 2018 pour atteindre 21 milliards de dollars, un chiffre toujours inférieur au niveau de 2016. Par ailleurs, 80% des fonds ont été affectés à 4 pays, l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie et le Ghana. Et puis il y a aussi la question de la création d'emplois très attendus par les gouvernements africains, mais qui tardent à se concrétiser. On estime qu'environ 440 millions de personnes vont entrer sur le marché du travail en Afrique d'ici 2030, mais personne ne sait comment elles vont gagner leur vie. Cependant, les partisans du Compact with Africa mettent en garde contre l'abandon du programme. Rob Floyd travaille pour le Centre africain pour la transformation économique, un groupe de réflexion basé au Ghana qui évalue les progrès de l'initiative pour le compte des pays membres. Il estime qu'il faut poursuivre les efforts.
Bien sûr, on peut faire plus, tant au sein des pays du pacte qui doivent faire une promotion plus efficace de leurs propres projets auprès des investisseurs, mais aussi dans les pays du Java où il est nécessaire de promouvoir plus activement l'investissement en Afrique auprès des entreprises.
En dépit des manquements, les informations devraient être plus positives à la réunion de ce mardi. Il sera entre autres question de la présentation de projets phares de sociétés allemandes en Afrique.
Le point avec Carole Assignon donc sur la DW. Il y a une année à Berlin déjà, divers projets pilotes d'une valeur globale de 500 millions d'euros avaient été annoncés dans les domaines de l'énergie solaire et la santé au Togo, au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire. La chancelière allemande Angela Merkel avait par ailleurs annoncé la création d'un fonds doté d'un milliard d'euros destiné à soutenir les investisseurs dans les pays africains qui ont adhéré à l'initiative Compact with Africa.
L'investissement allemand en Afrique à travers le programme Compact with Africa vise également à lutter contre la migration illégale et l'insécurité dans les pays du Sahel comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali.
Au Cameroun, la ville de Yaoundé accueille ce mardi 19 novembre les 48e assises de la presse francophone. Plus de 400 professionnels de la presse des pays francophones donc et anglo-saxons seront réunis autour du thème journalisme d'émotion, journalisme de l'information.
Les assises de la presse francophone qui s'achève le 22 novembre prochain ont pour objectif de remettre les professionnels du journalisme au cœur de l'exercice de leur métier. Par ailleurs, après le Rwanda en 2012, le Cameroun veut à son tour expérimenter le projet Youth Connect qui permet l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans des secteurs porteurs de croissance.
En République démocratique du Congo, cela fait maintenant un mois que les syndicats d'enseignants des écoles catholiques et protestantes ont déclenché leur grève dans les écoles placées sous la gestion des églises.
Les enseignants des écoles privées, notamment celles tenues par les confessions religieuses, exigent l'application des mesures d'accompagnement de gratuité de l'enseignement. Hier, des élèves des écoles publiques de Goma et Kinshasa sont descendus dans les rues pour protester contre la grève des enseignants.
Participez à notre jeu concours. Testez vos connaissances sur les émissions de DW Afrique.
Depuis l'an dernier, la Deutsche Welle produit, vous le savez, un magazine radio ainsi que des vidéos qui s'adressent spécifiquement aux jeunes Africains. Quel est ce magazine? Nous avons trois réponses au choix. Vous choisissez celle qui vous paraît la bonne. 77%, Pulsation, à vous la parole. La date limite pour participer est fixée au 10 décembre, mais attention, il ne faut pas nous répondre par Facebook, il faut répondre sur le site internet de la rédaction www.dw.com/français.
Ce qui nous amène au sport.
DW. Le sport.
Hier, sur tout le continent africain, on disputait la suite de la deuxième journée des qualifications à la CAN 2021. À Moroni, les Comores ont réalisé à l'Ifarat un véritable exploit face à l'Égypte.
Scène de liesse hier au stade Omnisport de Malouzini où les Comoriens sont parvenus à faire match nul face au Pharaon, score final 0-0. Les Comores sont en tête de leur groupe G avec 4 points, soit 2 longueurs d'avance sur le Kenya et l'Égypte. Le Kenya qui a été tenu en échec par le Togo, c'est Hakim Urosama qui avait répondu à Johanna Omolo. Dans le groupe C, le Ghana s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Sao Tomé et Principe. L'unique but de la rencontre a été inscrit sur pénalty par Jordan Ayou. Deuxième succès en 2 matchs pour les Black Stars qui reprennent 3 points d'avance sur l'Afrique du Sud.
Et de son côté, la RDC a été tenue en échec par la Gambie.
À Baka, aux villes côtières, les Léopards ont longtemps cru tenir la victoire grâce à Cédric Bakambu et Jackson Muleka, mais ils ont été contraints au nul dans les dernières minutes par les Scorpions, score final 2 buts partout. Avec 4 points, la Gambie est en tête du groupe D en compagnie du Gabon qui avait battu l'Angola la veille 2 buts à 1. La RDC, elle, est 3e avec 2 points. Dans le groupe F, le Mozambique revient à hauteur du Cameroun suite à son match nul 2-2 sur la pelouse du Cap-Vert. Enfin, l'Algérie est allée s'imposer 1-0 au Botswana grâce à un superbe but de Youssef Belaïli sur corner direct.
Voilà, Ali Farhat, aujourd'hui, suite et fin de cette deuxième journée des qualifications à la CAN 2021.
À 13h TU, le Maroc évoluera à Bujumbura face au Burundi, tandis que la Côte d'Ivoire sera au stade de Tigray à Mekele pour jouer contre l'Éthiopie. À 16h, toujours en temps universel, on aura Mauritanie, République centrafricaine, Niger, Madagascar et Zambie, Zimbabwe. Enfin ce soir, à partir de 19h TU, la Libye affrontera la Tanzanie, tandis que la Guinée équatoriale sera opposée à la Tunisie, un remake du quart de finale de la CAN 2015 que la Guinée équatoriale avait remporté dans des conditions un peu étranges. Les 3e et 4e journées de ces qualifications à la CAN 21, qui aura lieu au Cameroun, auront lieu, elles, du 31 août au 8 septembre 2020. Il faut donc bien profiter de ces matchs des sélections nationales.
Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, on se prépare aussi pour le Cameroun.
Bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup à Ali Farhat. En plus bref, une page noire de cette édition. Colette Hubert Senghor, veuve du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est décédée hier lundi à Versant, en France. Colette Hubert Senghor allait avoir 94 ans ce mercredi, frisque nom.
Oui, son époux, Léopold Sédar Senghor, décédé le 20 décembre 2001, avait été élu président de la République du Sénégal en 1960 et il restera près de 20 ans.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
Nous prenons la direction encore de Dakar. Là-bas, le thermomètre devra atteindre les 30 degrés cette semaine. Alors, comme souvent entre juillet et novembre, les habitants cherchent à se rafraîchir durant ces mois de forte chaleur. Il faut dire que là-bas, au Sénégal, les maisons et les immeubles faits de parpaings de ciment retiennent beaucoup de chaleur.
Oui, sans climatisation, il fait très chaud en été lorsque les températures atteignent 35% et 90% d'humidité. Mais une technologie de construction bioclimatique pourrait changer les choses. Elle séduit même déjà certains habitants. Il s'agit de la BTC, la brique en terre compressée, une technique ancienne mais améliorée.
Qui permettrait même de réduire sa facture d'électricité. On découvre tout cela ensemble ce matin avec ce reportage depuis la capitale sénégalaise d'Emmanuel Landé. Les mains dans la latérite.
La latérite, cette terre rouge brune du Sénégal qu'on retrouve dans nombre de pays africains, est la matière première principale qui entre dans la fabrication des briques en terre compressée. Tamisée en vue d'éliminer les grosses pierres et d'éventuels autres déchets, la terre crue est ensuite adjuvantée d'un peu de ciment et de l'eau pour permettre de la stabiliser. Comme une machine bien huilée, 3 ouvriers chargent à l'appel le mélange dans un pressoir mécanique. En quelques secondes, la terre rouge est compressée en une brique parfaitement rectangulaire. Après 21 jours de séchage au soleil, elles seront prêtes à être utilisées. Chaque brique pèse entre 8 et 10 kg. Élémentaire, c'est la dénomination d'une petite entreprise sénégalaise qui s'investit dans le développement durable depuis 2010. Et c'est ici, dans l'une de ses usines, que sont fabriquées au quotidien environ 1000 briques. Pour Doudou Dem, le fondateur d'Elementaire, utiliser des matériaux locaux pour réduire l'empreinte carbone de la construction est indispensable.
On doit au moins réfléchir à comment construire un bâtiment pas trop cher, sans importer d'isolant, et qui va être adapté à notre climat, à notre environnement, à notre mode de vie. Donc l'idée c'est ça, et que tout soit au maximum le plus local possible.
Des spécialistes l'ont prouvé, les maisons en terre sont des maisons à basse consommation d'énergie, adaptées aux nouvelles normes. C'est ce qui pousse des résidents comme Fred Franzetti à choisir ces briques pour construire leurs habitations. Cela coûte moins cher que les constructions en ciment.
Ça m'a coûté à peu près le même prix, voire un petit peu légèrement moins. Mais c'est pas très très économique financièrement dans la construction. L'économie, par contre, je pense, se fait après dans l'utilisation du bâtiment.
Construire avec des BTC contribue aussi à réduire à long terme les factures d'électricité.
On a 2 à 3 mois de chaleur par an au Sénégal. Durant ces 2-3 mois, oui, je dois mettre la climatisation bien 8 à 12 heures par jour. Donc évidemment, c'est sûr que ça, c'est très coûteux, quoi.
Les briques en terre ont un coût de production inférieur en raison de l'utilisation limitée de ciment. La terre crue n'est pas à proprement parler isolante, mais ses propriétés régulatrices d'humidité et de température contribuent de façon significative au confort thermique d'une construction. Doudoudem.
Mais l'avantage aussi, c'est que ces murs, sont, avec cette inertie-là, vont empêcher la fraîcheur de sortir. Contrairement au béton qui, lui, tout de suite, laisse la chaleur pénétrer. Donc en fait, on climatise tout le temps. On ne peut pas l'éteindre. Dès qu'on l'éteint, la chaleur rentre parce que le mur l'accumule et il laisse rentrer.
Les villages traditionnels à travers le Sénégal ont chacun leur variante de la brique de terre, avec plus ou moins de sable ou plus ou moins de paille. Autrefois, les maisons n'étaient pas bien construites et la brique en terre crue a développé une mauvaise réputation. La BTC d'aujourd'hui n'a rien à voir. La mise en œuvre de la terre crue fait l'objet de règles professionnelles accréditées depuis juillet 2012 en France et en Europe. À Dakar, l'hôtel Le Djolof en a même fait sa marque de qualité en construisant 12 chambres sur 3 étages. Des chambres qui nécessitent moins de maintenance que le reste de l'hôtel, selon Daouda Ndao, chef de la maintenance.
Il y a moins de maintenance, il y a moins de consommation d'électricité, et il y a moins de frais si tu voulais faire la peinture toutes les années ou tous les mois. C'est ça la différence.
Et cela a son petit effet sur les clients, qui sont souvent surpris par la fraîcheur dans leur chambre. À Dakar, Emmanuel Landais pour la Deutsche Welle.
À vous la parole.
À 7h26 en temps universel, vous avez été très nombreux à réagir au sujet de la solidarité envers les pauvres après donc l'appel du pape François. On vous en parlait ce week-end.
Le pape a accueilli dimanche dernier quelques 1500 pauvres et sans-abri pour déjeuner au Vatican en dénonçant l'indifférence de la société envers les démunis. C'était à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres instituée par le chef de l'Église catholique.
Un événement du Vatican qui vous a donc fait réagir sur nos réseaux sociaux. Scruter, Nafissa Amadou.
Mes pensées vont à ceux qui ont promu des initiatives de solidarité pour donner un espoir concret aux plus défavorisés, a déclaré le pape récemment. J'ai vu des statistiques sur la pauvreté, elles vous font souffrir, a souligné le souverain pontife, dénonçant l'indifférence de la société envers les pauvres. Pour Michel de la Côte d'Ivoire, le pape François fait une œuvre merveilleuse car, dit-il, il existe très peu de personnes capables de tourner un regard envers les démunis. De plus en plus d'hommes de pouvoir devraient en faire autant car notre monde est malheureusement bondé de pauvres, conclut Michel. Sonny de la RDC nous dit que dans son pays, on ne sent pas tellement cette solidarité envers les pauvres. On a beaucoup d'enfants démunis et certains se retrouvent dans la rue car les parents n'ont pas les moyens de s'en occuper et d'autres ne sont pas scolarisés, ajoute notre auditeur. Il nous apprend que la plupart des personnes démunies sont considérées comme des sorciers par les personnes nanties. Aucune solidarité envers les pauvres, ce qui est destiné aux pauvres est toujours détourné pour servir aux mieux nantis, écrit pour sa part Bewezima de Lomé au Togo. On ressent cette solidarité lors des fêtes de Noël, de Nouvel An, de Ramadan et de Tabaski ou bien à la rentrée scolaire. Sinon, les pauvres sont toujours laissés à leur sort, poursuit Bewezima. Pour un autre auditeur du Niger, il y a plus de pauvres que de personnes riches, à telle enseigne que ces derniers ne peuvent pas ouvrir leurs portes aux nécessiteux. Beaucoup veulent aider, mais face à la proportion de la misère, ils ne peuvent pas. Et pour terminer, Mouzembe de la RDC nous apprend que chez lui, précisément dans la province de Lomami, la pauvreté est palpable. Il y a des sans-abri, des cas de malnutrition aiguë, des vols nocturnes perpétuels dus au manque d'emploi ou encore des cas de décès dans des prisons par manque de nourriture. Mais heureusement, pour parer à ces maux, les églises s'organisent pour assister les démunis, par exemple avec des collectes de nourriture à offrir aux plus pauvres.
Le rappel des titres, Frédéric Kenom.
Suite et fin de la conférence internationale sur la paix et la sécurité au Sénégal. Aujourd'hui, journée mondiale des toilettes. Et puis, les colonies israéliennes en Cisjordanie ne sont plus illégales selon les États-Unis. Bob Vauqui aimait entendre parler d'argent. Le budget de l'Union européenne pour 2020 s'élève à 168,7 milliards d'euros.
La vie, Frédéric Kenom, ça se fabrique avec les moyens du bord. Voilà, c'est la pensée du jour. C'était Info Matin, on se retrouve à 17h temps universel pour une nouvelle édition de nos informations. On se dit à très très vite. Tchuss !